Bon, tout d'abord, je tiens à remercier M. le professeur Chet d'avoir eu l'amabilité de... Bon, vous savez, d'abord, le français n'est pas ma langue maternelle, donc de temps en temps, deux en temps... C'est peu que j'ai des problèmes, j'espère pas, mais bon, je vous l'ai dit comme ça, si jamais, pour avoir votre bienveillance envers moi. Bon, donc je remercie mon hôte, d'avoir eu l'amabilité de m'inviter, d'être aujourd'hui ici parmi vous. Et vous savez, je vais vous faire un aveu, pour quelqu'un d'assez francophile comme moi, c'est vrai. Être aujourd'hui ici, bon, c'est quelque chose, vous savez, c'est je m'y attendais pas déjà, et bon, c'est en haut lieu de la culture du monde académique français, donc j'en suis vraiment flatté, je suis très heureux donc d'être aujourd'hui ici avec vous, parmi vous, et donc je n'y dirai jamais suffisamment merci à M. Chet et à M. Hébrin, qui a eu donc la gentillesse de m'accueillir au sein de leurs activités. Bon, donc, je vais effectivement parler des morts. En fait, je vais parler des vivants par l'intermédiaire des morts. Vous allez le voir. Et je vais consacrer cet exposé qui sera assez généraliste, quand même, assez descriptif. Hein. Je risque de paraître un peu généraliste parce que c'est un pari que je fais. Donc, je vais parler de ces populations proto-historiques de l'Afrique du Nord, non pas seulement du Maroc. C'est vrai que le Maroc, c'est la région que je connais le mieux, avec les Canaries. Mais j'ai cru bon vous donner un panorama d'ensemble assez rapide, dont de ces sociétés, de ces cultures qui ont peuplé l'Afrique du Nord et les Canaries dans la proto-histoire. Déjà, qu'est-ce que c'est que la proto-histoire ? Vous savez, c'est un terme assez discuté, assez discutable, pré-proto, bon... Et c'est à la fois chronologique, ça rime à la fois source dont on se sert pour étudier ces populations, il y a l'archéologie, il y a les textes. Donc je ne vais pas rentrer dans ces débats, qui est un débat donc, qui remonte loin dans les temps, qui est toujours vif, et qui à mon avis, je crois qu'il ne sera jamais clos. Et donc pour cette conférence, ces populations préhistoriques peuvent être assimilées aux Libyens, aux Libyques, et des sources. Donc, on commencera au tournant du premier millénaire avant l'ère commune, comme on dit maintenant, avant Jésus-Christ, et pour finir autour de l'islamisation de cette immense région. Déjà, vous allez voir l'immensité du territoire, l'islamisation qui est un processus, qui est une dynamique aussi très longue dans les temps, qui n'a pas été faite de façon uniforme. Et donc, on débute à la lisière du deuxième millénaire, premier millénaire avant l'heure commune, et en suivant la trace de ces populations qui peuplent cette immense région et qui subissent très tôt la présence ou l'impact colonial, comme on dit, des Grecs, des Phéniciens, des Carthaginois, puis après des Romains. Et ensuite, à la fin, pour finir, bon, sur les Vandales, sur les Byzantins, donc pour subir donc, cette influence islamique qui comporte l'arabisation et l'islamisation de ces territoires. Donc vous avez là cette carte d'Afrique du Nord, vous voyez un peu les ondes d'influence des Phéniciens et des Italiens. Bien sûr, la colonisation n'est pas non plus une dynamique très intense. En général, elle ne touche que les côtes de la Cyrénaïque pour le monde grec, l'ensemble du Maghreb central et occidental pour les Phéniciens, sur la base des comptoirs des villes que vous connaissez bien. Donc, dans cette dynamique coloniale, à un moment donné, on voit émerger et ce qu'on appelle le royaume indigène, donc des chefferies aristocratiques qui deviennent petit à petit donc, des vrais États, Bien sûr, à partir de l'influence et la présence phénicienne, carthaginoise, on va surtout, à partir de des guerres puniques, se mettre en place ces royaumes. Vous les avez sur la carte, le royaume numide, le royaume mort. Vous avez même la généalogie. Bon, vous avez tous entendu parler, j'imagine, des Syphax, des Massinissa, des Micipsa, des Bocchus, des Juba II, qui est quand même un roi très important dans la mesure où, l'exposé que je suis en train de faire, dans la mesure où on a l'impression de plus en plus que c'est à l'époque des Juba II que les îles Canaries ont été définitivement peuplées. Peut-être elles étaient visitées bien avant, mais le peuplement, la colonisation définitive doit remonter au règne des Juba II. Donc, ces rois, ces peuples que l'on voit émerger dans les sources écrites à partir du IIIe siècle, essentiellement donc à la suite des conflits entre les Romains et les Carthaginois, et après donc, la romanisation, la conquête romaine de ces territoires, bon, avec la création des provinces, je ne vais pas rentrer en détail, on n'a pas suffisamment de temps. Et donc, sur cette toile de fond de la colonisation, donc du contact colonial, de la contagion culturelle, qui a certainement un rôle important vis-à-vis des populations locales, se développe une dynamique qui est très vigoureuse, elle aussi, donc, au sein des populations indigènes, de ces populations libyques. Donc, sur cette carte que je vous présente, vous avez donc les grandes ethnonymes de ces populations, bon, les Maures, les Numides, les Gétules, les Garamantes. Et les Canariens, c'est un ethnonyme qui apparaît bien plus tard, apparaît déjà à l'époque de la colonisation castillane, donc au XIVe siècle. Et donc, cette carte que vous avez, qui représente donc une simplification de la carte ethnique de cette proto-histoire de l'Afrique du Nord et des îles Canaries, c'est celle qui va être la base de cette présentation. Sur la carte, je marquais donc les études des cas que l'on va évoquer lors de cette conférence. Si vous voyez, finalement, j'ai essayé de faire coïncider les études des cas avec donc ces ethnonymes, ces tribus, ces confédérations, ces populations, donc qui se développent au fur et à mesure d'une période très très vaste dans le temps. Rappelez-vous, 1000 avant l'ère commune, islamisation. Je vous rappelle que la présence des armées musulmanes en Afrique du Nord date du 7e siècle, mais l'islamisation définitive du territoire dans le sud de cette immense région est bien plus tardive, 13e, 14e, même plus tard. Donc, et ça, on va le faire par cette approche de cette protussante, on va le faire à travers le monde funéraire, l'arc juif funéraire. Et pourquoi l'arc juif funéraire ? Bon, d'abord parce que, je le dis tout à l'heure, ça paraît un paradoxe, mais l'essentiel de nos connaissances sur les mondes proto-historiques de l'Afrique du Nord, sur ces gens qui étaient vivants à l'époque, l'essentiel de cette information, de ces connaissances, provient des nécropoles, du monde des morts. Donc, c'est un paradoxe. On connaît les vivants essentiellement à travers les morts, à travers les pratiques funéraires. Donc, l'archéologie funéraire de la proto-histoire maghrébine, nord-africaine et canarienne, est en quelque sorte l'archéologie de la proto-histoire de cet immense territoire. Bien sûr, avec l'archéologie funéraire, on peut avoir accès à l'archéologie de la différenciation sociale, c'est quelque chose que l'on connaît, à l'archéologie de l'univers mythico-rituel, la cosmologie, les croyances, mais aussi à l'archéologie du salut et du chagrin, de la peine. Hein, qu'est-ce qu'on sentait ? Non, parce que ces gens auxquels on a affaire, des fois, bon, on oublie que c'était des gens comme nous et très différents de nous, finalement. Donc, il y a des pratiques, il y a des sentiments qui sont là, il y a des façons d'être dans le monde, d'imaginer un monde, de voir la réalité produire des individus, bon, et tout ça, des fois, si on reste à l'écoute, on peut essayer de le retracer par le biais de l'analyse de ces mondes des morts, de son funéraire. L'archéologie de la mémoire, des souvenirs, des oublis, l'archéologie des identités, l'archéologie des territoires, des paysages, tout ça, on peut le faire par cette approche. L'archéologie du genre, les hommes, les femmes, l'archéologie de l'enfance, ça on le sait, il y a tout un traitement différent des enfants en général pour toutes ces sociétés. L'architecture, donc, si vous voulez, avec cette approche, on a la possibilité d'avoir affaire à toute une série de volets qui peuvent éventuellement illustrer l'ensemble de ces populations. D'autant plus, j'insiste, que pour nous, pour la plupart des régions, vous allez le voir, on a très peu de données sur les habitats, très peu. Il y a des régions où il n'y a quasiment aucune donnée, aucun indice sur ces populations. Bon, avant de rentrer dans le cœur du sujet, bon, je voulais juste avoir un mot pour honorer la mémoire de mon maître, enfin de mon maître à penser, de professeur Camps, que vous avez sur l'image avec donc la page de couverture de ses œuvres qui est toujours incontournable. Donc c'était sa thèse d'état et sur les monuments. Et rites funéraires et protohistoriques de l'Afrique du Nord. Donc, il est décédé en 2002, le grand spécialiste de la protohistoire de l'Afrique du Nord. Et bon, bien sûr, vous pouvez imaginer que j'ai puisé et dans son savoir quand je l'ai connu, étudiant, il y a des années à Aix-en-Provence. Et puis, même maintenant, parce que je vous dis, son œuvre est toujours incontournable. Donc, je voulais juste saluer sa mémoire. Bon, bref, on commence très vite par la Tunisie et l'Algérie occidentale. Bon, je ne vais pas rentrer, malheureusement, on n'a pas le temps sur des détails géographiques. Bon, c'est la région de l'Atlas tellien, de la dorsale tunisienne, des Aurès, de Steppe. Bon, j'ai pas le temps. Et bien sûr, vous imaginez bien que pour une région vaste, très ouverte à l'influence des Carthage, vous avez vu Carthage, c'est à côté, pour la période dont on parle, on a affaire à une multiplicité de formes funéraires, d'architecture, des paysages. Mais bon, on n'aura pas le temps ni l'occasion, ni c'est pas très intéressant de parler de tout cela. Bon, il y a toute une série de monuments qui existent dans toutes ces régions. Bon, en particulier, ces monuments, vous voyez là, turiformes circulaires qu'on appelle les basinas, qui sont un peu partout, dans le sud de la Tunisie, dans le nord. Et bon, on verra plus tard que ces genres de typologies funéraires est appelé à jouer un rôle très important dans les architectures funéraires des moments les plus avancés. Bon, on va juste parler de deux types de sépultures, de deux types d'architecture, des paysages funéraires. Très connu d'une part, mais dont on ne sait pas grand-chose sur le plan chronologique et parfois des rites funéraires. Je parle de Hawanet. Hein, Hawanet, ça veut dire boutique en arabe, des tombes creuses dans l'Europe. Vous avez la carte là, c'est très intéressant de la voir. Il y a une répartition essentiellement littorale ouverte vers la Méditerranée, et certainement ça a affaire à l'origine et probablement à la chronologie, comme on verra. Bon. Alors, vous avez les images de ces Hawanet, Hanout en singulier. On connaît à l'heure actuelle à peu près 80 nécropoles Hawanet, ces petites chambres funéraires qui ont été décrites depuis le 19e siècle par les voyageurs, par les auteurs. Et ça a eu des implications pour la conservation, ça, j'en reviendrai un peu plus tard. Donc vous voyez quelques images. Donc des petites chambres funéraires qui ressemblent à des fenêtres que vous avez vues, qui comportent souvent des décors architecturaux, donc vous voyez des espèces de fenêtres à corniche, à gorge égyptienne, le signe de Tanit, des bucranes, etc. Des peintures, comme celle de Kefelblida, qui a servi à essayer de dater justement ces genres de monuments, et aussi bien pour ceux qui penchent pour une chronologie très ancienne au début du premier millénaire, ou pour ceux qui pensent qu'il s'agit plutôt d'un élément d'origine phénicienne qui a été importé et adapté par les populations locales. Bon, je vais juste vous présenter la nécropole qui est à l'heure actuelle la mieux connue, qui est la mieux décrite. C'est celle de Sidi Mohamed Atrache, à l'ouest de Hammamet, qui a été étudiée par notre collègue Mansour Haki. Donc, c'est une nécropole qui comporte deux ensembles de monuments que vous voyez là, bon, la distribution. Donc, avec cet aspect que vous avez là, les affleurements rocheux, où l'on voit ces espèces de fenêtres avec tous les systèmes de fermeture qui n'existent plus, bien entendu. Le problème de toutes ces tombes, c'est qu'elles ont été l'objet de plusieurs réutilisations, donc qui ont modifié le remplissage archéologique, à tel point qu'on ne sait pas exactement le moment originaire où ces sépultures ont servi. On sait qu'elles ont été en fonction jusqu'à la période punique, même au-delà, mais on ne sait pas le moment, on ne connaît pas le moment où ces tombes ont été creusées pour la première fois. Elles ont été réutilisées à plusieurs reprises, et donc ces grottes artificielles, ces chambres creusées dans le roc qui comportent, vous les voyez ici, toute une série de décors architecturaux, des piliers, des niches que vous voyez ici, et des peintures très intéressantes comme celles que vous voyez là, une peinture d'un mausolée pudique classique avec le coq, bon, est-ce que c'est une représentation eschatologique qui nous parle de ces mondes outre-tombe, bon. En tout cas, l'essentiel que je voulais vous transmettre, il s'agit d'une typologie funéraire réservée à cette zone qui, effectivement, a pu être introduite dans la Tunisie vu la typologie de certaines de ces chambres, la distribution géographique au tout début du premier millénaire, mais qui a été en fonction jusqu'à la période carthaginoise et même romaine, à tel point qu'on peut parler d'une transition entre le monde libyque, proto-historique, et le monde phénicien, avec ce type de tombe que vous voyez ici, où déjà apparaît les puits typiques de tombes phéniciennes. La deuxième typologie des tombes dont je voulais vous parler, c'est celle de dolmens. Les dolmens, c'est, bon, vous en avez entendu parler, c'est des chambres constituées par des orthostates, des grands blocs de pierres. Encore une fois, un mot sur la répartition de ces nécropoles dolméniques dans la région. Vous voyez encore une fois qu'elles sont plutôt concentrées vers l'Occident Tunisie et l'Orient de l'Algérie, dont cette zone, vous avez ici le Zorès, dont la dorsale tunisienne. Donc la répartition serait aussi un critère chronologique pour déterminer l'origine de ces tombes. Bon, déjà, M. Combs l'avait dit à l'époque, et plus on avance à la recherche, et plus on a l'impression qu'effectivement, il s'agit d'une, comme les Hawanettes peut-être, d'une typologie funéraire qui arrive dans la région à travers la Méditerranée, puisque des tombes comparables, on les a en Sicile, on les a en Sardaigne et dans d'autres territoires de la Méditerranée européenne. Bon, voilà donc les dolmens, quelques images des dolmens, il y a toute une typologie, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, vous voyez ces espèces de tables, hein, dolmens ça veut dire ça, des tables, des petits dolmens que vous voyez ici. Donc, c'est des chambres pour les plus grandes. Elles ne dépassent pas les 3-4 mètres 5 mètres sur 3, sur 2 mètres. Ce n'est pas les grands dolmens européens. Ça fait penser effectivement aux petits dolmens du sud de l'Italie, de la Sardaigne, de la Sicile. Bon, il y a des dolmens, des nécropoles dolméniques un peu partout. Bon, mais l'une des plus importantes, en jugée par le nombre de monuments connus, décrits, c'est celle de Jebel Mazela, que vous voyez là, au sud des Constantines, qui a été fouillée dans les années 50, précisément par M. Camps et sa femme, Hélène Camps-Favret. Et donc, c'est une nécropole qui comporte entre 3000 et 10 000 monuments. Tenez-vous bien, entre 3000 et 10 000, hein, vous voyez la précision, entre 3000 et 10 000 monuments. La plupart sont disparus, n'existent plus. Camps, à l'époque, en a fouillé une vingtaine. Et donc, elle a établi toute une typologie de ces dolmens, où il y a deux types qui l'emportent sur le reste. Le dolmen à socle, que vous voyez ici, et le dolmen à manchon, d'après lui, c'est des sépultures dolméniques qui seraient une transition entre les dolmens classiques qu'on a vus et les basinas que je vous ai montré en début de l'exposé. Bon, voilà la typologie, vite fait. Et aussi, à côté de ces dolmens, il y a donc les basinas. Il y a quelques basinas, ils ne sont pas majoritaires, donc ça pourrait être effectivement la preuve de cette symbiose entre les dolmens et les basinas qui donnent lieu à cette typologie caractéristique des dolmens à socle, dolmens à manchon. Donc, dans ces dolmens, à l'époque déjà, on a trouvé tout un mobilier funéraire composé de céramiques tournées, des céramiques modelées. La céramique tournée a servi à l'époque à établir une chronologie qui était une chronologie plutôt récente. À l'époque, on n'avait pas suffisamment d'éléments de comparaison. M. Camps, il a été sa nécropole, la nécropole de Jebel Mazela du 4e, 3e. Bon, maintenant, on sait par comparaison avec du matériel qui a été exhumé dans des fouilles plus récentes que la chronologie de ces nécropoles remonterait au moins au 8e siècle. Donc, on est bien haut dans la chronologie, ça conforte tout à fait l'hypothèse de M. Camps. Donc, ces dolmens n'ont rien à voir avec les Phéniciens et les Carthaginois. Peut-être ça serait donc le résultat d'une arrivée des populations, de l'idée du dolmen, ça, on n'en sait pas. En tout cas, bon, on n'a pas suffisamment de temps pour polémiquer sur ça. Bon, heureusement, dans les dernières années, il y a eu quelques projets de fouilles menés par des collègues dans différentes zones de la Tunisie pour mettre quelques éléments, pour ajouter quelques éléments dans ce dossier. Bon, en particulier Altiburos, Al-Medinine. Vous avez vu la position sur la localisation sur la carte. Donc, où plusieurs dolmens comme ceux de Jebel Mazela ont été fouillés, vous les avez là. Vous avez là la répartition. Il y a presque un millier de monuments qui ont été fouillés. On ne sait pas exactement l'habitat qui pourrait correspondre, si comme Jebel Mazela, à cette immense nécropole. Peut-être en partie Altiburos, cette ville punique, romaine, où les travaux menés par une équipe mixte tuniso-espagnole ont mis au jour des niveaux numides très anciens, datant du 10e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être donc ces numides d'Altiburos inhumaient leurs morts dans cette nécropole, c'est pas impossible, mais en tout cas, on a suffisamment déjà d'éléments nouveaux. La chronologie de ces monuments que vous voyez ici est tout à fait comparable à celle de Jebel Mazela. Donc, l'hypothèse d'une chronologie ancienne pour ces monuments semble tout à fait attestée. Un autre projet de recherche dans cette région, c'est Enshir, Midid, Elès et Maktar. Ça a été le fruit d'un programme de recherche, cette fois-ci tuniso-italien, qui ont travaillé sur une nécropole dolménique, Enshir Midid, mais aussi sur deux nécropoles très intéressantes dans la mesure où elles comportent des monuments dolmeniques très complexes à portiques que je vous présentais rapidement. Voilà Michel Mididi, voilà la nécropole, donc toute une série de monuments dont je n'aurai pas le temps de le voir en détail, et cet dolmen composé qui a été fouillé, et vous voyez ici donc le résultat de cette fouille du dolmen 102 où deux individus ont été trouvés. Et grâce à la céramique et au carbone 14, on dispose maintenant d'une datation aussi ancienne pour ces phénomènes dolméniques tunisiens. Bon, je finirai avec ces complexes dolméniques de Maktar et Elès, assez semblables, vous le voyez ici. Quelques images d'un relevé des profilés de 1953. Et la nécropole d'Elès, qui a fait aussi l'objet d'une étude approfondie par cette équipe tuniso-italienne. Le problème de ces deux ensembles, c'est encore une fois la chronologie. On n'a pas suffisamment d'éléments de datation. Les mobiliers qui étaient trouvés en place étaient plutôt récents. On ne sait pas si c'est le résultat d'une réutilisation ou vraiment ça correspond au moment de la construction. Ce qui, effectivement, nous amènerait un moment assez récent. Donc la chronologie la plus ancienne de ces monuments ne paraît pas, à en juger à partir du mobilier archéologique, ne paraît pas aller au-delà du IIIe siècle. Voilà encore des images de ces nécropoles, des plans qui ont été relevés, qui correspondent tout à fait à ces croquis de Denis de la fin du XIXe siècle que vous avez sur la diapositive. Donc, quant aux pratiques et rites qui ont été attestés dans ces monuments, je bouge les mains. Et dans ces monuments, on part toujours d'inhumation en position fléchie ou contractée. Vous avez là une image de la nécropole des Gastel. Qui n'est pas loin de Tébessa, qui est l'une des nécropoles les plus importantes de l'ensemble du Maghreb, proto-historique. Et vous voyez là donc cette disposition du cadavre d'humation couché sur les côtés, dans ces cas le côté droit, en position fléchie. On les a en position très contractée, donc on dit des fois fœtale, donc les cadavres sont vraiment recroquevillés, et ça demande effectivement l'existence d'une pratique de ligotage, des fois la désarticulation du cadavre. Il existe quelques exemples épars d'inhumation allongée, donc en décubitus dorsal allongé, mais l'impression qu'il s'agit toujours d'exemples très tardifs, de réoccupation de certains des monuments ou des monuments construits de toutes pièces, mais pour des pratiques d'inhumation plutôt tardives. Les tombes comme celles que vous voyez ici ou ici, ce qu'on a vu de Hanchel Mididi, sont individuelles ou doubles. Ici, bon, c'est une fouille récente, on a pu même identifier la séquence de l'inhumation. Donc, il y a eu un temps s'écoulé entre l'inhumation des individus. Et quant au mobilier, bon, le mobilier, vous le voyez ici, à Gastel, qui a fourni une quantité immense de pièces céramiques, presque 500 vases céramiques avec de la céramique modelée, mais aussi la céramique tournée, qui a permis la datation de cet ensemble entre le IIIe et le XIIe siècle, donc la présence de céramique dans ces inhumations. L'emploi, et ça c'est quelque chose qui est assez systématique dans ces nécropoles nord-africaines, de l'ocre rouge. Les cadavres étaient manifestement enrobé d'ocre rouge, d'oxyde de fer. Il recevait une application, c'était probablement saupoudré, et une fois que la poutréfaction a fait son travail, dont ces traces d'ocre sont restées sur les ossements. À côté de... Et ça, c'est très intéressant, et ça, les travaux à Altiburos l'ont bien montré, on l'a bien prouvé, l'existence d'un autre mode d'inhumation qui consiste dans les décharnements ou décarnisation des cadavres. Vous avez là l'exemple de Gastel, encore une fois. À droite, celui de Tidis, sur lequel je vais insister très rapidement. Donc, les cadavres étaient probablement inhumés dans une première tombe, et dans un pourrissoir, on pourrait dire. Et une fois que ce cadavre avait. Cet individu pourri, on récupérait une partie des ossements qu'on réenterrait dans des monuments qui avaient un caractère collectif. Et des fois, ça, c'est nos collègues tunisiens et espagnols ou catalans qui travaillent à Tiburus. Bon, on a l'impression que même une partie des ossements était enterrée dans les maisons, puisqu'ils ont trouvé, dans ces maisons humides qu'ils ont fouillées du Xe siècle, des ossements humains. Donc, on a l'impression qu'une fois que le squelette allait être transféré dans une sépulture définitive, une partie des restes était récupérée et enterrée dans les maisons. C'est une pratique qu'on connaît dans d'autres endroits. Et donc, vous voyez là cet exemple. On connaît, par exemple, aussi à Maktar, dans ces monuments portiques complexes qu'on a vus, les cas des crânes qui étaient séparés et allongés. Mais peut-être le cas le plus connu, c'est celui de Tidis que vous avez ici. Vous avez là les crânes, hein, et donc des ossements longs et des céramiques qui contenaient une partie des ossements que vous voyez ici. Donc, les cadavres étaient récupérés en partie. Les crânes faisaient l'objet d'un traitement particulier, ils étaient récupérés et alignés sur les parois, comme on a vu, et puis les ossements longs étaient ramassés dans des endroits précis, et le reste, le squelette, vous voyez ici, dans les parties représentées, enfermées dans ces vases peints très connus de Tidis. Voilà. Une chose aussi importante, c'est l'orientation des tombes. Vous avez là plusieurs schémas d'orientation des tombes, vous voyez là que enfin, sauf quelques cas très exceptionnels, bon, que je n'ai pas le temps de développer, l'essentiel des tombes, vous allez dans l'est, hein, sont orientées vers l'est ou le sud-est, c'est-à-dire vers le soleil levant ou montant, toujours. Donc ça, vous pouvez bien imaginer que la plupart des spécialistes, des auteurs, sont d'accord pour mettre cette orientation particulière en relation avec l'existence des marques solaires et dans le culte solaire qu'on connaît d'ailleurs à travers les sources. Bon, cette même orientation, on l'a dans deux tombes très connues, très importantes, deux tombes royales, le Medrassène près de Bagdad, près des Aurès, le mausolée royal de la Mauritanie près des Tipaza, dont deux tombes qui bien sûr témoignent d'influence du monde hellénistique, du monde punique, mais dont la forme de basina et l'orientation vers l'est, avec une espèce d'air rituel ici, les entrées, portent à penser que donc, ces mondes indigènes qu'on a vus dans les dolmens, dans les hawanets, dont cette importance des marques solaires, du culte solaire, des astres, et bien là, donc, c'est une transition, donc c'est une présentation, une visualisation, une monumentalisation, comme on dit, donc de ces pouvoirs indigènes. Bon, ça, le Medrassène a été daté du IVe siècle, ça correspond, on ne sait pas exactement quel roi ou quel prince indigène, mais en tout cas, c'était un mausolée princier. Celui-là, il est plus tardif, 1er siècle. Bon, on a parlé de Juba II, on a parlé de Bocchus, on a parlé de Saussuse. On ne sait pas exactement qui était enterré, mais en tout cas, bon, c'était un personnage important. Ce n'est pas n'importe qui était enterré dans un monument pareil. Et donc, cette monumentalisation tenait aussi compte de cet héritage indigène, autochtone, pour symboliser peut-être ses pouvoirs. Bon, très vite. On passe maintenant de l'autre côté du Maghreb, on passe au Maroc, à la péninsule tangitane. Et là, vous avez donc, surtout dans la région de Tanger, un ensemble des tombes de caissons funéraires qui ont été connu pour la première fois au XIXe siècle, mais qui était surtout étudié aux années 50 et 60 par Michel Poncic. Et là, donc, vous avez cette vision ces nécropoles, des nécropoles de Mers, dans ce cas particulier, avec ces caissons que vous voyez là, donc avec encore une fois des dalles dressées verticalement, des dalles de champ, des orthostates, où avait des cadavres qui étaient enterrés, encore une fois, en position fléchie, avec un mobilier conçu cette fois-ci d'éléments métalliques et des vases funéraires. Donc, ça nous amène une chronologie haute, qui sera en relation avec la fin de l'âge du bronze et donc le début de l'âge du fer. Encore une fois, l'existence de l'ocre rouge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette typologie funéraire et ces modes d'inhumation, donc en position latérale fléchie, continuent pendant toute la période phénicienne, à tel point que des fois, il n'est pas facile de différencier qui sont phéniciens, qui sont libyques. La seule présence, à mon avis, de matériel punique dans une tombe, comme c'est le cas ici à Jebila, ne prouve pas qu'on ait affaire à des vrais phéniciens. Et on a plutôt l'impression que c'est des libyques qui ont été plus ou moins phénicisés ou punisisés. À côté, c'est là une nécropole tumulaire très importante, où ces caissons que vous voyez, qu'on a vus à Tanger sont surmontés d'un tumulus funéraire, d'un tertre de terre. Donc, des marques déjà sur les territoires importantes, donc c'est des points de repère. Ce qui n'était pas le cas, semblait-il, dans les nécropoles de Tanger qu'on a vus. On ne sait pas si ces petites tombes étaient surmontées ou pas d'un tumulus. Les conditions de la fouille ne permettent pas de le savoir, malheureusement. Et voilà, on a des régions comme Moulay Bou Selhem que vous voyez ici, où la concentration des tumulus, de ces tumulus qu'on a vus tout à l'heure, est vraiment remarquable. Et pour ne pas abandonner le Maroc sans vous parler de deux tumulus vraiment très importants, on va évoquer rapidement le sujet du tumulus de Mezora, qui est là, près de Assila, et du tumulus de Sisivan du Rab. Le tumulus de Mezora que vous voyez ici, il a été fouillé dans les années 30. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer en détail, l'histoire était et un peu abracadabrante. Bon, c'était fouillé à la veille de la guerre civile espagnole, dans des conditions assez difficiles et puis assez hétérodoxes. Donc, on a perdu beaucoup d'informations, on a très peu de documentation, mais il s'agit d'une tombe exceptionnelle que vous voyez ici. Donc, la taille est une cinquantaine de mètres de diamètre, 6 mètres de hauteur, tout en une série de monolithes qui entourent la tombe, que vous voyez ici, 176 monolithes. Vous voyez ici les photos de l'époque de la fouille de César Luis de Montalban, qui était le responsable du chantier. On estime le travail accumulé pour lever ces tumulus à plus de 7000 journées de travail. 7000 journées de travail, donc c'est immense l'effort qu'il a fallu fournir pour constituer cet immense tumulus. Et malgré l'inexistence des données, grâce à quelques éléments comme ça, comme ces tambours de pierre de taille qui entourent les monuments et quelques éléments complémentaires, on est arrivé à dater ces monuments du 4e, 3e siècle avant l'ère commune, donc, et ce qui correspondait manifestement à une tombe princière aristocratique de ces royaumes morts émergents. L'autre tumulus est celui de Sidisiman du Rarb, qui était lui aussi fouillé dans les années 30. À la différence de celui de Mezora, dont on ne connaît pas l'habitat qui pourrait être associé à ces nécropoles, dans ces cas, on connaît bien la localisation. C'était donc dans le marché hebdomadaire des Sidisiman du Rarb, de la ville actuelle, tout près de deux sites ayant fourni un matériel archéologique d'époque maurétanienne, surtout Rira, qui est en cours de fouille en ces moments, donc qui semble-t-il pourrait être l'une des réalias, donc des sièges de la cour des rois maurétaniens. et donc la relation directe avec ces structures que je vais vous montrer. Voilà donc le tumulus de Sidi Simán de Rahb au moment de la fouille, dans les années 30. C'était Armand Ruhlmann avec Raymond Luquet qui l'ont fouillé. Et à la différence de celui de Mézora, on dispose heureusement d'une documentation très importante, très richissime sur ces monuments. Vous voyez là. Donc, à l'intérieur de ces monuments, de ces tumulus, qui est un peu plus petit que celui de Mézora, on a trouvé cette chambre funéraire que vous voyez ici, donc, que vous voyez là en coupe. Et là, et donc en plan, qui est fait de bauges, donc des terres empilées, mais aussi des briques et des moellons, où on a trouvé, ça c'est le plus important, quatre cadavres, quatre squelettes, deux dans la chambre, un ici et un ici. Et bon, je vous fais grâce des détails. Donc on a ici certainement affaire à ce que nous appelons, dans le jargon de l'archive funéraire, des morts d'accompagnement, donc des individus qui ont été sacrifiés, qui sont donnés à mort. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était des serfs ou pas, c'était des proches. En tout cas, bon, ça témoigne certainement d'une société hiérarchisée, avec des liens de dépendance et des fidélités qui montrent sans aucun doute possible l'émergence d'un pouvoir étatique, que l'on peut dater, parce que là on a aussi beaucoup de céramiques tournées, du 3e, 2e siècle. Donc on a certainement affaire ici à ce monde émergent des royaumes mauritaniens. Bon, rapidement, on va passer de l'autre côté du Maghreb, encore une fois, cette fois-ci dans une aire désertique, c'est le Fezzan. C'est le sud de la Libye, la région de l'ouest de la Jal, que vous voyez ici, où a eu lieu l'essor d'une civilisation qu'on connaît comme les Garamantes. C'était un vrai État qui a connu un moment de développement entre le 5e siècle avant et le 5e siècle après Jésus-Christ, de l'ère commune, qui était, contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps, c'était un monde des nomades, des barbares. On sait bien maintenant, grâce aux travaux qui ont été développés depuis l'époque de la colonisation italienne par nos collègues italiens, Pace Caputo, mais surtout avec donc nos collègues anglais, Dan Nies et actuellement David Mattingly. Donc on sait bien qu'on a affaire donc à une société très complexe, articulée autour des villes comme Germa, Garama, avec une agriculture hydraulique très développée. On creusait des galeries drainantes. On avait donc une agriculture développée avec de la vigne, des céréales et le commerce caravanier. Donc, on connaît assez bien les nécropoles de ces mondes. On connaît à l'heure actuelle à peu près 120 000 tombes, mais on pense qu'il y a au moins d'après les travaux de prospection qui ont été faits, au moins entre 200 et 250 000 tombes préservées, conservées, encore visibles. Donc, dont une partie ont été fouillées. Donc, grâce à un tel échantillon, on a bien déterminé d'abord la typologie des cimetières. Une typologie, vous les voyez concentrée en ligne. Donc, quelques exemples. Ici, vous avez le cimetière connu comme le cimetière royal de Germa. Un exemple de cimetière en ligne, vous voyez là les photos aériennes. Des cimetières concentrés, le Hatiya, Wawat. Donc, et au sein de ces nécropoles, avec la typologie que je vous ai montrée, donc aussi toute une typologie variée de tombes, vous les voyez là, essentiellement donc des tombes turiformes, des fosses, dont les fameuses basinas à gradins qui rappellent des tombes qu'on connaît dans notre région, et ces tombes qu'on appelle pyramides, que je vous montrais tout à l'heure. Donc, les basinas à gradins, ces tombes, à plein carré, avec la chambre funéraire, souvent avec un enduit sur les murs des moellons, et donc ces fameuses pyramides, nécropoles comme Hatiya que vous voyez ici, dont l'influence égyptienne paraît difficilement contestable. Parce que c'est vrai qu'à Garama, on est dans un carrefour saharien où les influences arrivées de l'Égypte et de la côte méditerranéenne, avec la présence grecque et romaine qu'on a vue tout à l'heure, sont incontestables. Dans ces nécropoles que je vous ai montrées, il y a quelques éléments très intéressants dont il faut tenir compte. L'existence surtout d'aires cultuelles que vous voyez ici dans toutes ces tombes-là, là, là. Déjà, vous voyez, ça c'est quelque chose d'intéressant, que l'orientation n'est pas toujours la même. Ils sont orientés soit à l'est, soit à l'ouest. Ce n'est pas comme le cas qu'on a vu tout à l'heure des dolmens ou des hawanet, des Tunisies, où il y a toujours une orientation impérative vers l'est ou les sud-est, donc vers le soleil levant ou le soleil montant. Là, donc, on a l'impression que ici, le mouvement solaire n'est pas réellement important. Mais ce qu'on trouve dans les aires cultuelles, c'est donc des stèles, comme vous voyez ici, hein, des stèles, donc on parle des stèles à cornes ou des stèles à doigts, mais finalement le principe est le même, quelques éléments pointus, deux ou quatre, et les tables d'offrande que vous voyez ici. Donc la typologie de ces stèles et de ces tables d'offrande, qui est très variée, que vous voyez là, qui coexiste avec donc, des inhumations individuelles, parfois doubles, couchées sur la droite ou sur la gauche, toujours en position fléchie ou fortement repliée, et des fois, ça c'est intéressant, avec l'existence donc, de ces appuis-têtes que vous voyez ici, et qui avait fait parler aux auteurs qui ont travaillé pour la première fois sur une nécropole de cadavres en position assise. Bon, ces appuis-têtes qu'on connaît bien dans des pays comme l'Égypte. Et donc, voilà l'une des tombes, la tombe 15 de la nécropole de Germa. Vous voyez donc l'aire cultuelle, la selle, la table à offrande, la chambre funéraire avec le cadavre en position fléchie, même contractée, couchée sur le côté gauche, avec donc tous ces mobiliers que vous voyez ici, avec énormément de céramique importée, céramique romaine, vous reconnaissez certainement ici la sigillée, les amphores romaines. Et donc tout ce qu'on vient de voir nous parle effectivement d'une série de pratiques et de rites donc, qui constituent une identité funéraire très marquée chez ces populations. L'orientation est variable, donc les marques solaires ici sont discutables, mais en revanche, la présence donc rouge et la propre présence de ces éléments cultuels nous parle d'existence de rites et de pratiques assez développées. Bon, on a évoqué dès le début l'existence de pratiques liées au culte des ancêtres, à la relation des ancêtres tout au moins, la nécromancie, dont la divination par les ancêtres, l'incubation, d'autant plus qu'on a quelques textes classiques, quelques sources anciennes, que ce soit Hérodote ou Pomponius Mela, qui parlent de certaines populations de l'Afrique du Nord de l'époque, je vous rappelle Hérodote, 5e siècle avant, donc de l'existence chez les Nazamons, il nous dit, donc de cette pratique, dont les gens allaient coucher sur les tombes des ancêtres pour deviner l'avenir ou pour avoir des nouvelles de personnes qui étaient absentes, qui étaient en voyage. C'est quelque chose qu'on connaît même à l'heure actuelle chez les Touaregs du Sahara. Et donc, vous voyez donc, les orientations, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'il y a une orientation majoritairement vers l'est, mais vous voyez là, l'ouest, même le nord. Et le mobilier, qui est, je n'ai pas le temps de rentrer en détail, qui est un mobilier donc, où coexiste le matériel indigène, la cornaline, la céramique peinte, très caractéristique du monde guéramantique, que l'on connaît dans d'autres endroits du Sahara, par exemple dans la tombe de Tihidan, dans le cœur de la Agar. Je vous rappelle que Tihidan est censé être la reine mythique des Touaregs de la Agar. On a trouvé un brûle-parfum exactement comme celui-là. Donc, ici. Et toutes ces céramiques, et ça c'est important, qui est certainement lié à l'existence d'un trafic caravanier très important dans la région, vous voyez là. Bon, rapidement, pour commencer à terminer, donc on revient sur le Maroc pré-saharien, on revient vers l'ouest, avant de faire un saut aux Canaries. C'est une région qui est le pré-sahara marocain, qui va du Tafil al-Lel au bord de l'Atlantique, où, voilà, donc ça, vous avez l'Anti-Atlas, l'Haut-Atlas, je n'ai pas le temps de rentrer, dont l'Ouedra, qui est le grand fleuve pré-saharien. Donc, dans toutes ces régions, il y a toute une série de cimetières, de nécropoles, avec des caractéristiques communes, mais aussi très différentes, que je vais vous présenter rapidement. Donc, dans le Tafil al-Lelt et l'Ahmad al-Dugir, on a un ensemble de nécropoles, vous les avez sur la carte, Bouya, Taouz, Ashbaraber, Jortrva, qui attestent une typologie funéraire très caractéristique. Là, vous avez la nécropole de Taouz, qui s'étend sur une zone d'affleurement rocheux de Jebel, c'est les Jebel Tadaoud, les Jebel Oufilal. Vous voyez là donc les Jebel Tadaoud. On voit sur les photos satellites, on voit très bien les monuments. Bon, je vous invite à travailler un peu sur Google, on voit énormément de choses. Hein. Donc c'est une nécropole où il y a différents monuments avec des typologies variées. Des gravures rupestres, là c'est la station achat rupestre la plus importante de tout le Maroc, ce qui veut dire quelque chose, et donc avec des sépultures comme celle-là qu'on appelle des sépultures à chapelle que vous voyez ici. Je vous rappelle qu'on est dans le domaine, dans la région qui est la source classique attribue au Gétule, donc ces chapelles, des structures aménagées au cœur du monument même, qui ne sont pas en contact avec la chambre funéraire, ça c'est important. En voici une, ça a été fouillé dans les années 50, en voici autre. L'orientation, toujours, encore une fois, vers l'est, vers le sud-est, c'est un élément donc, dont il faut tenir compte. Et le mobilier est très, très pauvre, on a des problèmes, des difficultés de datation, on les avait dans les années 50, on les a toujours, je vais vous le dire. Mais en tout cas, bon, encore une fois, les rites solaires sont présents et la possibilité de l'incubation, de la nécromancie aussi. Voilà donc Bouya, la nécropole la plus importante, plusieurs milliers de sépultures que vous voyez là, qui n'existent plus. Bon, elles ont été arasées pour utiliser les pierres pour les bâtiments, pour la construction. Encore une fois, cette typologie des chambres creusées et des chapelles aménagées au cœur du monument. La typologie en diffère, mais les principes sont les mêmes, des chapelles, des plans carrés, des plans circulaires, le chambre funéraire. Ashbaraber, ça c'est une nécropole très intéressante, dans la mesure où elle est très bien conservée. Ça c'est la zone frontalière entre l'Algérie et le Maroc, c'est une zone militaire interdite, et ça fait que la conservation de ces monuments est remarquable. Alors ça, si vous avez envie d'aller fouiller un tumulus, un monument funéraire, au Maroc, c'est là qu'il faut aller, ce n'est pas évident de le faire en ces moments. Et là, déjà dans les années 50, les inventeurs de la nécropole de Taouz qu'on a vu avaient remarqué la présence, dans le nord de cette nécropole, de cette basina à plein carré, à gradin, avec l'entrée des chambres. C'est un monument exceptionnel qui rappelle un peu ce qu'on a vu à plus grande échelle, qu'on a vu à Garama, donc qui est pas fouillé, qui est juste inventorié, dont on dispose de ce relevé, heureusement, puisqu'elle a été très remaniée par l'activité des bergers dans les dernières années. Et là, je ne résiste pas à vous montrer cette image, c'est le sud de la nécropole, et je ne sais pas si vous voyez tous les monuments qui sont là, on le voit très, très, très bien, hein, sur la photo aérienne, vous voyez, non, très, très bien, donc je vous dis, c'est très bien conservé. Encore une fois, on a juste une description de cette sépulture. On a eu l'occasion de visiter la nécropole à un moment donné où il y a une certaine accalmie entre le Maroc et l'Algérie. Maintenant, c'est pas évident d'y aller. Et donc, je vous avoue que c'est vraiment impressionnant. Toute la typologie, bon, ça c'est tiré dans une description, dans un travail qui a été fait dans les années 74 par des Italiens. Vous voyez encore une fois une typologie tout à fait comparable. L'existence de tables à offrande, ici aussi, toujours orientées, on a l'orientation ici, toujours orientée vers le sud, vers le sud-est. Et la dernière nécropole qui est liée à cette typologie, celle des genres Torvins. Et je vous la présente parce que c'est la seule qui nous permet de fournir une chronologie sur ces types funéraires que vous voyez là. Donc ça, c'est la tombe 5 qui a été fouillée par Michel Lioro dans les années 70. Vous la voyez, c'est exactement la même typologie. Et heureusement, il a trouvé à l'intérieur de cette chapelle où pourraient avoir lieu ces rites d'incubation quelques dalles peintes que vous voyez ici. Ça, c'est celle de Michel Lioro, qui est en relation avec d'autres trouvées dans les années 40 par le capitaine Villalonga, dont celle-là. Bon, grâce à l'analyse iconographique des éléments que vous voyez ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut dater au moins les dalles, et probablement l'occupation l'inhumation de la tombe, l'inhumation avec un matériel très intéressant, du 5e, peut-être 6e siècle de l'ère chrétienne, donc de l'ère commune. Et mettre en relation cette nécropole avec un monument aussi remarquable, je n'ai pas le temps de rentrer en détail non plus, qui est le Gédard. Le Gédard, c'est l'un des monuments, de ces espèces de basinas à plein carré, qui rappelle, avec donc une aire cultuelle aussi orientée à l'est, avec des chambres à l'intérieur, qui rappelle un plus grandiose ce qu'on a vu dans ces nécropoles du Tafilalet et du Gir, et qui correspond, ça on le sait, à une tombe princière de ce royaume romano-berbère qu'on appelle de fois le royaume de l'Oarsenis ou des Aurès, qui englobait probablement toutes ces régions de la zone pré-saharienne de l'Algérie et du Maroc occidental au 5e, 6e siècle. Donc rapidement, deux mots sur le coup du drap, où des nécropoles aussi ont été signalées, inventoriées, fouillées depuis les années 40. Ça, c'est le coup du drap. Vous avez Zagora ici. On parle aussi, encore une fois, des milliers et des milliers de tombes. Heureusement, des travaux ont été entrepris très récemment par nos collègues marocains et anglais, notamment David Mattingly, dont j'évoquais le nom tout à l'heure. Et grâce à ces travaux, on peut disposer à l'heure actuelle de suffisamment d'éléments de datation, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, vous avez la nécropole de Fulerjam, l'un des cimetières de cet ensemble, avec 2000 et quelques tombes, monuments que vous voyez là. La typologie est très particulière, vous le voyez, c'est des monuments en cône, c'est des espèces de dômes, avec cette chambre funéraire couverte en corbellement, avec une espèce de lucarne, mais qui est fermée, qui ne communique pas avec l'extérieur. Ça a une typologie très précise, très particulière de la région, mais avec des tables à offrandes, encore une fois orientées vers l'est, comme on a vu. Voilà, encore une table à offrandes. Ici, l'orientation de tous les monuments qu'on a pu mesurer, vous voyez que c'est concentré sur l'est, le sud-est. Donc, encore une fois, le soleil devant, l'importance de l'astro solaire. Les tombes qui ont été trouvées, fouillées par Madame Jacques Meunier dans les années 40, pas par nos collègues marocains et anglais qui ont juste fait prélèvement d'échantillons pour datation, et sont parfois collectives. Dans la tombe 3, Madame Jacques Meunier a trouvé 6 squelettes avec des inhumations en position primaire, mais aussi de traces de décarnisation, de décharnement qu'on a vues. Et quant à la chronologie, maintenant, on sait grâce aux travaux de nos collègues, que je citais tout à l'heure, qu'on a une occupation depuis le 9e siècle avant Jésus-Christ jusqu'encore une fois, le 5e, 6e de l'ère chrétienne. Donc, 13 siècles d'occupation. Et là, je vous fais avec l'autorisation de nos amis marocains, je vous fais une avant-première. Ça, c'est le résultat de la localisation d'un tubulus à chapelle comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans la région du Tafilalet, ici, dans une nécropole où l'endroit reste plus ou moins secret. Voilà, donc vous avez la tombe, la chapelle, et quelqu'un qui rentre, l'intérieur, et là, c'est le plus important, des peintures à l'intérieur de la chambre comme celles qu'on a vues à Georges Torba. Exactement, et si vous voyez la typologie, les habits, le javelot, les lances. Donc, une preuve que ces nécropoles qu'on a vues avec ces chapelles existent
ailleurs, et probablement on a affaire au même monde qu'on a testé dans la région de Tafilalel. Pour finir avec le Maroc, la vallée de Ouennoun, nous avons, nous, travaillé, comme M. Chet a dit, depuis l'année 95. Donc c'est une région immense, 7000 km², mais là aussi on a travaillé sur les nécropoles. Vous avez donc le cas de distribution des nécropoles tumulaires, pardon, et l'un des sites où l'on a fouillé. Et ça c'est aussi intéressant, c'est comme à Taouz, c'est un site rupestre avec donc plusieurs monuments funéraires associés. La relation entre la rupestre et les monuments n'est pas facile à établir. C'est comme à Taouz, on ne sait pas s'ils sont contemporains ou pas. Bon, il y a des arguments pour et contre que je ne vais pas être en développer. Voilà donc les dalles gravées en rouge, voilà les monuments en bleu, et voilà le résultat de la fouille, donc les éléments, ces motifs, des bovidés typiques, encore une fois des chars rupestres, et donc deux monuments qu'on a pu fouiller, le tumulus 1 avec sa chambre funéraire, avec non pas des chapelles ou des niches comme l'autre, mais deux espèces de tourelles avec deux petites antennes où l'on a trouvé à l'intérieur des ossements brûlés d'oiseaux, donc orientés elles aussi, les tourelles à l'est. Donc un cadavre d'une femme âgée d'une vingtaine d'années qui avait couché d'un enfant avec un mobilier, vous voyez les bracelets en fer, les boucles d'oreilles, de pièces de silex, et en deuxième tumulus avec cette fois-ci une niche, mais avec la même orientation vers l'est, avec la fausse inhumation. Vous voyez donc ici la niche et ici la fausse inhumation, avec donc encore le cadavre d'une femme en position repliée, avec son mobilier funéraire, quelques fragments des coquilles marines. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le tumulus a été réutilisé une deuxième fois, vous voyez ici dans les traces, il a été pillé, donc ce qu'on a trouvé, c'est les mains, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que la datation de cette réutilisation est une datation très récente, donc c'est le 9e siècle de l'ère. Ça veut dire que malgré l'islamisation de la région, au 9e, peut-être au 10e siècle, on continuait d'utiliser les tumulus proto-historiques, pré-islamiques, on continuait à inhumer suivant les rites propres des populations anti-islamique. 9e siècle, 10e en fonction de la calibration de la datation. Et donc, on passe, pour finir, aux Canaries, aux îles Canaries, l'archipel des îles Canaries que vous voyez là, donc juste en face de la région où nous étions tout à l'heure. Je vous rappelle qu'entre les Cap Juby, qui est ici, et l'île de Fuerteventura, qui est celle-là, qui est à peu près du continent, il y a à peine une centaine de kilomètres. Donc, la navigation apparemment est facile, mais quand même il y a le courant des Canaries. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais bon, en tout cas, on sait bien que les îles Canaries ont été peuplées. On sait bien. Hein. Il y a des données assez consistantes pour postuler un peuplement définitif de l'archipel autour du 1er siècle avant, 1er siècle après. Même si on connaît des vestiges un peu plus anciens qui pourraient militer en faveur des voyages d'exploration plus anciens, hein, de peut-être voyages sans endémain, peut-être de voyages d'exploration menés par les Phéniciens. Là, il y a tout un débat. Vous savez, les éléments archéologiques, les preuves archéologiques ne sont pas tellement éloquentes, mais bon, ce n'est pas impossible. Quand on connaît la capacité des navigateurs phéniciens, quand on connaît la flotte phénicienne, quand on a vu les ports de Carthage, on imagine bien que les Phéniciens, que les Puniques étaient tout à fait capables d'aborder aux îles Canaries. En tout cas, pour le peuplement définitif, il a eu lieu certainement, très probablement, entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après, et très probablement en relation avec justement le commerce, l'exploitation de la pourpre jetulie, qui est le nom que cette région, on a vu tout à l'heure, la jetulie, avait à l'époque classique. Bon, voilà, donc c'est 8 îles, hein, si on compte l'île de la Graziosa qui est là, qui est une île magnifique, hein, c'est la seule île, il n'y a pas de route goudronnée, très bien préservée, donc si vous voulez aller en vacances aux Canaries, n'hésitez pas, je vous conseille d'aller là-bas, c'est un petit paradis. La 8e île canarienne. Bon, donc un archipel où chaque île est un monde en soi sur le plan archéologique, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et on va parler brièvement de la Grande Canarie, c'est l'étude des cas que je choisis pour vous montrer. Voilà donc la Grande Canarie, une île volcanique. Vous voyez là le Shell, c'est pas grand, qui fait dans les 60 km de diamètre, très montagneuse. Et donc, pour vous présenter ces mondes funéraires canariens, il faut de façon inévitable partir, commencer par le commencement, et c'est les nécropoles en grotte et naturelles. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est celles qui ont été connues et diffusées en premier lieu, donc très tôt, de façon précoce, et puis après, à l'heure actuelle, les datations les plus anciennes que nous avons de nécropoles, des inhumations, des tombes, pour l'ensemble des villes, proviennent effectivement de ces nécropoles en grottes naturelles. Voilà les deux que vous avez sur la carte, Akusa. Et là, vous avez une grotte naturelle qui reste encore murée. Mais malheureusement, la plupart de ces grottes ont été visitées, vidées au XIXe siècle en cherchant ces fameuses momies canariennes. Ça a donc ces deux exemplaires, parmi d'autres, celle dont provient de Huayadeque, celle d'Ambada Cousin. Alors, donc, au XIXe siècle, ces momies, hein, j'en reviendrai sur les momies, ont fait l'objet d'une recherche passionnée hein, qui a comporté le pillage, l'instruction. Bon, les musées européens et insulaires cherchaient avec empressement ces dépouilles mortelles, et donc il y avait tout un commerce qui était développé, un commerce de momies canariennes qui ont quitté les îles. Il y en a en Angleterre, il y en a en France, il y en a aux Amériques. Voilà. Donc, déjà, vous voyez une différence par rapport à ce qu'on a vu. Là, on a affaire, dans les deux cas, vous voyez, à des cadavres qui sont en position des cubitus dorsales allongés sur le dos. Donc, on est loin de ce monde, de ces inhumations fléchies, repliées, contractées qu'on a vues sur l'ensemble, hein, sur l'ensemble des sites proto-historiques de l'Afrique du Nord que je vous ai présentés, sauf dans des cas d'inhumation tardive, comme on a vu. Et vous voyez donc ces enveloppes, parce qu'en fait, on parle d'enveloppes funéraires. Au XIXe siècle, on parlait de enfuronados en espagnol, donc des sacoches, hein, des sacoches funéraires, parce que vous voyez, donc, les cadavres sont enveloppés dans des pots de caprinés, et parfois des couches, plusieurs couches. Hein, celle-là, elle a une douzaine de couches de peau, parfois de nouveau-nés. Hein, on a l'impression que des fois, même les mères étaient sacrifiées pour en extraire le petit chevreau, tanner les peaux et les utiliser pour les linceuls de ce cadavre. Et là, donc, c'est nain. Voilà, ces dernières années, il y a un développement, une floraison d'études de ces momies. On parle des momies parce que bon, c'est comme ça qu'on les a appelées pendant très longtemps, sous prétexte qu'il y avait, et ça c'est vrai, des textes contemporains de la conquête castillane des îles Canaries, 14e, 15e siècle, qui parlent effectivement, qui disent que le Canarien, surtout les nobles canariens, se faisaient embaumer, donc après leur mort, le cadavre était enfumé. Alors justement, toute une polémique, il y a eu éviscération ou pas. Bon, bref. Toutes ces études, j'en reviendrai à la fin, donc vous voyez ici, avec donc études radiologiques, l'étude donc des linceuls, de ces peaux. Vous voyez ces cultures magnifiques. Je vous rappelle que jusqu'à nouvel ordre, ces populations canariennes anciennes, jusqu'à la conquête castillane, ne connaissaient pas. On oubliait la technique de la métallurgie. Aux Canaries, il n'y a pas de site métallifère, donc tout ça est fait avec des aiguilles en os. Voilà, donc des grottes existent encore, mais vous voyez l'état de la plupart de ces grottes, donc pillées depuis le XIXe siècle, donc c'est des tas d'examens d'ossements longs que vous voyez ici. Deux fois, on a la chance de tomber sur des grottes qui sont en partie épargnées et qui ont pu être fouillées, vous les avez là. Deux fois, il y a des morceaux de peau, des morceaux de nattes qui sont conservés, des fois pas, mais bon, vous voyez encore une fois la position. À côté de cela, on a des grandes nécropoles comme la Guancha et le Maipé, que vous voyez ici. Bon, j'ai pris juste l'exemple du Maipé d'Agaeté, une nécropole qui comporte plusieurs centaines de monuments, qui avait une enceinte pour la délimiter, donc déjà un besoin de différencier le monde des morts du monde des vivants, avec une typologie de tombes turiformes qui nous rappelle un peu ce qu'on a vu de l'autre côté de la lentille, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez donc la typologie et toutes ces variantes. Et bien, en tout cas, l'essentiel de l'architecture rappelle ces tours, et même ces basinas, ces tours, ces monuments funéraires, circulaires, à gradins qu'on a vus. En général, sous ces tumulus, il y a des tombes individuelles, rarement doubles, avec les cadavres allongés que vous voyez ici, sans mobilier, mais bon, heureusement, grâce au carbone 14, on a pu dater ces nécropoles entre le 7e et le 11e et le 10e siècle. Pardon. Donc, ce serait plus tardif, plus récente que les nécropoles en grotte naturelle qui continue de toute façon dans le temps. Et puis après, la troisième typologie de nécropole, c'est celle de la Guancha la Ujelo, que je vous présentais, vous voyez ici, c'est un site côtier, c'est un habitat où l'on a trouvé une série de tumulus, des monuments funéraires assez complexes, je vous montrer. Donc, à commencer par le tumulus de la Ujelo, que vous voyez ici. Là, c'est donc une basina à gradin qui effectivement, un air de famille avec les basinas du continent. Et là, aux années 30, elle n'existe plus. Hein. Elle a été rasée dans les années 40, à la fin des années 40. On a trouvé quelques fosses à inhumation, cinq fosses à inhumation, et un ossuaire collectif au milieu. Et l'intérêt de ces tombes, mis à part ces documents précieux qui nous permettent de nous faire une idée de cette tombe, c'est la présence d'un mobilier funéraire constitué des trois vases, dont vous avez deux sur l'image, qui est quelque chose d'exceptionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de grottes, la présence de mobilier funéraire dans les inhumations, sur l'inhumation, il n'y a pas de crémation, même partielle, comme on a vu sur les continents. Et l'existence des mobiliers funéraires est rarissime. Donc, il y a ce cas de la Ujelo et un autre qui constitue une exception. Et voilà, à côté dans la même nécropole, ces tumulus de la Guancha que vous voyez ici. Donc, c'est la même idée. Donc, un espace central. C'est encore une fouille des années 30, mais on a pu récupérer la documentation il n'y a pas très longtemps, réétudier, localiser chaque squelette qui était déposé au musée Canario dans l'emplacement original. Et on sait que cette tombe principale, le centre que vous voyez ici, principal, est occupé par la tombe d'une femme assez âgée. Et on a l'impression que toute la nécropole s'est développée autour d'une quarantaine, 43 exactement, inhumations, toujours en position décubitus dorsal allongé sur le dos, s'est développé autour de ces structures centrales au fur et à mesure de l'évolution de la démographie de ces lignages ou de ces clans qui occupaient probablement l'habitat associé. Ces espaces centrales, les fosses dans ces espèces de compartiments, mais aussi des fosses que vous voyez là, donc en beige, des fosses funéraires sans cystes, comme c'est le cas d'intérêt. Voilà. L'existence d'inhumation en fosse est maintenant très bien attestée, non seulement dans ces grands tumulus, mais dans d'autres nécropoles de l'île. Vous voyez ici donc une fosse dans une cyste. Si l'on compare ce qu'on connaît de l'ensemble nécropole que ce soit les inhumations dans des grottes naturelles, les inhumations sous tumulus ou les inhumations dans des fosses, on a affaire, si vous le remarquez, au même type des comportements de traitement du cadavre. La position est la même. On voit très bien le ligotage qui avait lieu au niveau des coudes. Hein, vous voyez la position des bras au niveau des genoux et au niveau des pieds. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on a l'impression que ces momies dont on parle doivent être mises, sinon en question, au moins traiter le sujet avec beaucoup de caution. Il n'est pas impossible que presque la majorité des cadavres, même ceux qu'on trouve sous tumulus ou dans des fosses, étaient à l'origine enveloppés dans des linceuls tout à fait comparables qui ont disparu hein, par des questions liées à la conservation différentielle.
Donc, en conclusion, et pour finir, je vais trop tarder, donc, on a vu tous ces paysages, ces architectures, ces pratiques, ces populations qu'on peut appeler les lycoberbères, qui, en absence des sites d'habitat bien connus, constituent les seules traces matérielles dont nous disposons pour aborder leur étude. Et ces paysages, ces architectures, ces pratiques témoignent d'un grand dynamisme et d'une variabilité assez marquée. La disposition des nécropoles et leur organisation, la monumentalisation, les aménagements des tombes, la manipulation et les traitements des cadavres sont autant d'éléments qui montrent de façon éloquente ces diversités, tout en permettant d'approcher la territorialité, l'identité communautaire, la différenciation sociale, les usages sociaux de la mémoire ou l'univers mythico-rituel de ces sociétés. Donc, comme nous venons de le voir, leur analyse qui est encore balbutiante hein, pour pas mal de ces nécropoles pourra nous apporter dans l'avenir encore plus d'informations sur ces morts et sur le moment où ils étaient encore en vie. Donc, pour retracer cette histoire passionnante des populations proto-historiques ou libyques de l'Afrique du Nord et des Ikénaries. Merci beaucoup. Merci beaucoup.